cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre émission 100% locale, cultivons notre jardin. Donc cette émission vous est présentée par Nat et Jackie et nous vous parlons de jardinage, mais pas que. Salut Jackie, comment vas-tu aujourd'hui ?
De mon côté tout va bien, mais toi j'ai l'impression que t'as la pêche aussi.
Ah ben, en pleine forme, après ma cure de sève de bouleau, le printemps redémarrant, la sève remontant, effectivement, tout va bien, j'ai plein d'idées, plein de projets. C'est bien, c'est bien. Ça colle à la saison, ça aussi.
Voilà, bah écoute, si tu le dis, on va faire avec ça. Et puis, on va pouvoir démarrer.
Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui, Jackie ? Ah tiens, petite nouveauté. Enfin, nouveauté non, on l'attendait depuis un petit moment. On vous propose de nous poser les questions de jardinage qui vous préoccupent. Et ça y est, les questions commencent à arriver dans la boîte mail de 48FM. Et nous avons une première question aujourd'hui, Jackie. Est-ce que tu es prêt ?
Eh bien, on peut commencer par là.
Alors voilà, nous avons la question d'un auditeur mandois qui nous dit « Bonjour, j'ai planté 5 cyprès Leyland. Sur les 5, 2 ont rougi. Sont-ils morts ? Et quelle peut en être la cause ?»
Alors bon, plusieurs choses à dire. On va essayer à partir d'une question de discuter autour de ça. Déjà, le choix des cyprès de Leyland. Le cyprès de Leyland, il a un avantage, c'est que c'est une plante de haie qui va pousser très rapidement. Donc quand on veut se protéger rapidement, on peut le faire avec des cyprès de Leyland. Par contre, il faut savoir que ben là, on est dans les conifères, donc des plantes qui vont ramener de l'acidité
dans le sol.
Il faut savoir qu'on va être obligé de beaucoup tailler, parce que le cyprès de Leyland, il faut savoir que si on le laisse pousser naturellement, il va faire 15 mètres de haut. Donc là, si on le met en haie, il va falloir le réduire à 2 mètres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les ans, on va le réduire à 2 mètres, mais parallèlement, son réseau de racines va continuer à s'étendre et donc il va fournir de plus en plus de bois que malheureusement on ne pourra pas utiliser pour faire par exemple du BRF ou du compostage parce que justement, comme je disais, c'est trop acide. Alors moi, dans ce cas-là, ben, je conseille plutôt de mettre des arbres qui peuvent être un peu caduques. Hein, être charmille, par exemple. Hein, la charmille, c'est du charme, ça se supporte très bien la taille. Et puis justement, on pourra réutiliser ces bois. Ou alors des essences qui peuvent être proches des essences sauvages qu'on a ici. Mais là, je ne réponds pas à la question, donc je vais répondre plus précisément. À partir du moment où une plante va changer de couleur comme ça, il y a plusieurs raisons possibles. Déjà, si j'ai trop arrosé, par exemple, hein, il faut savoir que une plante que j'arrose trop, il va y avoir de l'eau qui risque de stagner au niveau des racines. Donc, une espèce d'étouffement comme ça, les plantes vont changer de couleur au niveau des feuilles. Hein, c'est vrai aussi pour des plantes d'appartement. Et bon, bah, souvent comme ça, ça va jaunir puis brunir comme ça. Là, il y a d'autres raisons qui peuvent être par rapport à la nature du sol. Hein, un sol qui va être pauvre, mon arbre va moins bien réagir. Il faut regarder aussi si j'ai pas un courant d'air à cet endroit-là, parce que il suffit qu'il y ait un courant d'air, le vent du nord et l'hiver. Là, je vous garantis que les conifères, ben justement, ils vont prendre cette couleur un peu rouge. Hein, ça m'y fait penser. Il peut y avoir aussi un manque de profondeur de sol, parce que quand je plante ma haie, eh ben, je vais faire une petite tranchée comme ça. Mais à savoir si sous ma tranchée, hein, je ne sais pas, 60 cm en dessous du niveau du sol, eh ben, c'est là qu'il y a pu y avoir la bétonnière pour faire la maison. C'est là qu'il peut y avoir des gros rochers ou autres. Et donc, qui peut expliquer aussi que l'eau d'arrosage stagne ou que mon sol, à cet endroit-là, soit moins riche. Donc, dans toutes ces causes possibles, eh bien, il faut choisir. Je demande justement à l'auditeur de prendre de la réflexion par rapport à tout ça et puis d'essayer de voir s'il peut par lui-même transformer des choses, donc arroser peut-être un peu moins ou améliorer son sol. Et puis surtout, bah, nous donner des nouvelles de sa haie. Voilà.
Oui, il vaut mieux pailler et moins arroser. Donc, vous avez compris, cher auditeur mandois, le premier conseil de Jackie, c'est de ne pas planter des conifères. Et ensuite, maintenant que c'est fait, ben, essayez effectivement de trouver la cause de ce mal qui attaque vos cyprès. Voilà, ben, nous espérons qu'au moins par déduction, vous arriverez à améliorer votre haie. Et merci pour cette question. Donc maintenant, nous allons pouvoir retourner à nos questions d'actualité sur le jardinage. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette 14e émission, Jackie ? De quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Eh bien alors, donc après cette rubrique-là, on va parler de la pratique, hein, toujours la pratique. Donc on aura notre rubrique « Affaires au jardin ». Où je vais essayer de donner des conseils justement pour les plantations, les semis à faire au potager. Alors, il y a quelques années aussi, c'était pas encore la mode, mais j'avais rédigé un document sur les auxiliaires du jardinier.
Ah !
Alors, j'ai bien envie de vous en parler, car c'est maintenant quelque chose d'assez communément établi, hein, qu'on a besoin de ces petites bestioles. Donc, voilà, je vous ai préparé quelque chose là-dessus. Et de ton côté, Nat, tu nous as préparé un petit sujet, je suppose ?
Oui, bien sûr. Soucieuse de toujours coller à l'actualité, je voulais vous parler d'une petite bête bien embêtante pour nos contrées, qui perturbe notamment nos balades en forêt en ce moment, entre autres. Je vous parlerai de la chenille processionnaire du pin.
Cultivons notre jardin.
Alors, Jackie, si tu commençais par nous dire ce que nous pouvons faire côté jardin par les temps qui courent.
Eh bien, comme d'habitude, un petit coup d'œil au calendrier lunaire pour la quinzaine qui vient. Donc, vendredi, samedi et dimanche, là, sur ce week-end, trois bons jours pour semer les légumes racines.
Carottes.
Voilà, les carottes, par exemple. Les premiers 2 et 3 mai, on peut semer les légumes feuilles.
Les salades.
Comme les salades ou les poireaux. Et on attendra les 12-13 mai pour semer des légumes fruits.
Et tomates.
Oh, elle est très forte. Alors, en tenant compte de ce calendrier lunaire, tu peux semer des betteraves, des carottes, hein, comme tu as pu le dire. Tu peux semer aussi du céleri à couper, les choux de Bruxelles, les choux paumés, les choux-fleurs, les poireaux, les concombres et les cornichons. Hein, on peut pouvoir commencer ça, les courgettes, les épinards d'été. Mais aussi les laitues, hein, puisqu'on on a parlé des légumes feuilles. On peut aussi semer des radis, des panais, si ce n'est déjà fait. Alors, une fois planté, il faut essayer de pailler au fur et à mesure, hein, pour limiter l'évaporation d'eau. Pensons-y dès maintenant, parce que ça commence par être sec.
Ouais, et puis tu parles des panais. Moi, j'avais une super recette de panais, de frites de panais au miel. C'est trop facile, en fait. Tu découpes tes panais en comme des frites, tu les trempes dans du miel, ensuite tu mets des épices et paf, au four. C'est super bon.
Alors, à essayer.
À essayer. Bon, ben merci, Jackie, pour ce point lune. Alors maintenant, tous à vos semis. Et avec cette lune, certes, qui peut bien aider nos amis jardiniers, mais quand même, revenons sur terre, parce que j'en connais d'autres qui peuvent aider nos jardins, n'est-ce pas, Jackie ? Beaucoup plus sur terre, effectivement. Tu veux bien nous raconter ce que tu sais sur les petites bestioles appelées auxiliaires du jardin ?
Eh ben, je vais en raconter au moins une partie. Déjà, il s'agit de décrire des petites bestioles utiles et serviables. Hein. Vous les connaissez, mais souvent, vous ne connaissez pas le nom ou autre. Alors, je vais essayer. Et pour ça, je vais commencer par les insectes.
Et à quoi elles servent aussi, ces petites bêtes ? C'est ça qui est important.
Ben justement.
Voilà.
Alors, en premier, à tout seigneur, tout honneur, il y a l'abeille domestique, hein, appelée aussi l'abeille sociale. C'est celle que l'on voit dans les ruches et qui nous donne du miel. Mmh. C'est une excellente pollinisatrice. Son action est essentielle si on veut avoir des fruits dans les arbres et aussi au potager. On pourra penser à l'attirer au jardin grâce à la plantation de plantes mellifères. Hein, on en avait parlé dans une émission précédente. C'est toi qui avais développé le sujet. Et on peut même prévoir l'implantation de ruches au bord des grands vergers.
Oui. Alors, OK, ça, c'est l'abeille domestique. C'est celle que tous les gens connaissent spontanément. On parlait de ruche, de miel, etc. Mais au même titre que toutes les autres espèces, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres variétés d'abeilles, non ?
Voilà. Alors, il y a beaucoup d'espèces. Exactement, ce sont des abeilles solitaires, hein, par rapport à ces abeilles sociales. Mmh. Donc, elles doivent se débrouiller toutes seules pour élever leur progéniture. Alors, elles vont chercher un petit trou dans lequel elles mettront du pollen et du nectar. Elles y pondront un seul œuf avant de refermer ce trou avec de la terre et de la salive. Vous pouvez voir assez fréquemment ça, des fois sur l'appui de fenêtre, parce qu'il y a un petit trou d'écoulement des eaux sous un appui de fenêtre. Et des fois, vous voyez de la terre dedans. Et moi, j'ai vu des gens râler après leurs enfants parce qu'ils avaient mis de la terre là-dedans, alors qu'en fait, c'était les petites abeilles. Alors, ils le referment et puis ils referment ce trou. Et puis la larve se développera à l'intérieur et un nouvel insecte en sortira au printemps suivant. Ce qui est intéressant, c'est que ça sort très tôt au printemps. Ça peut se contenter d'un printemps un peu frais, quand les abeilles justement sociales ne sont pas encore sorties, et ça commencera avec les bourdons à polliniser sérieusement dès les premières fleurs.
Oui, elles sont plus précoces. J'en ai observé chez moi l'été dernier, et c'est vrai que c'est hallucinant là, ce que la nature peut arriver à faire. Elles font un petit abri de terre, un peu comme un igloo, qu'elle colle avec la terre et la salive, et ça fait des petits ronds chez moi. Elle s'est installée dans la rainure de la porte d'entrée, et voilà, ça faisait comme des petites crottes de terre, et voilà, c'est intéressant.
c'est toujours bien à observer, hein, plutôt voilà. Que de balayer ça en se disant qui c'est qui m'a encore ramené de la cochonnerie devant la porte, quoi.
C'est ça.
Voilà. Parmi ces très nombreuses espèces d'abeilles solitaires, je peux citer une des plus fréquentes, hein, c'est l'osmirus. L'osmirus, elle est toute noire et elle a le bout de l'abdomen qui est couleur brique. Elle vient butiner et donc polliniser, comme je vous disais, très tôt au printemps, avant les abeilles sociales. Il y en a une autre qui s'appelle la mégachile. Alors, elle fait également partie de ces abeilles solitaires. On peut repérer sa présence par le fait qu'elle découpe les feuilles de rosier en demi-cercle. Pour ensuite les rouler en cigare. Et elle va glisser ce cigare dans un trou et pondre à l'intérieur. Ça, on le voit assez souvent. Hein. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'il me faudrait un insecticide parce que mon rosier est en train d'être bouffé. Quand on sait que ce n'est pas une chenille qui va manger, ça va prélever quelques petites parties de feuilles. Donc, ça ne met absolument pas en péril la vie du rosier. Et ça peut être intéressant à voir comme ça. Hein. Pour fidéliser ces utiles auxiliaires, je vous conseille de mettre à leur disposition justement des abris de ponte, hein, comme des bûches percées de trous allant de 3 à 10 cm de diamètre et de 5 à 10 cm de profondeur, ou bien des tiges creuses, hein, type bambou. Et le tout, vous l'orientez ça vers le sud, en tout cas que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Ça, c'est important.
On va faire des maisons à abeilles.
Voilà.
C'est chouette. Lors d'une émission lointaine, je dirais, tu nous avais parlé des guêpes aussi. Est-ce qu'elles ont le même type d'utilité ? Raconte un peu.
Alors, chez les guêpes aussi, il y a justement, on retrouve des insectes sociaux et des insectes solitaires.
Comme chez les gens, en fait. Hein.
Comme chez les gens, comme chez les abeilles. Chez les abeilles.
Oui, puisque c'est la guêpe.
La guêpe poliste, par exemple, c'est une guêpe sociale. Alors, ça ne va pas faire des sociétés aussi importantes que les abeilles. Hein. Souvent, c'est de 10 à 20 individus qui sont très peu agressifs. Ils font des petits nids aériens en forme de parasol un peu. Alors, c'est seulement constitué d'un seul rayon horizontal pour mettre leurs œufs et leurs larves. Ces insectes sont des prédateurs. Alors, c'est différent. Ce n'est pas pour la pollinisation, c'est parce que ce sont des prédateurs. Mmh. Donc, ils mangent beaucoup de mouches, de chenilles et même de moucherons.
Et hein, chenilles processionnaires, non ?
Chenilles processionnaires, non. En règle générale, c'est plutôt les chenilles qu'on va avoir sur les arbres fruitiers, etc.
Oui.
C'est des chenilles, dépourvues de poils. Hein, parce qu'ils vont rentrer ça dans un trou et avec les poils, ce serait beaucoup plus difficile. Donc,
tu nous en diras tant.
Oui. Alors, un autre type de guêpe aussi, qui est noir, celui-là, est beaucoup plus allongé, avec un ovipositeur, hein, ce que des gens peuvent appeler des dards, mais qui n'en sont pas. Hein, c'est ovipositeur pour mettre ses œufs. Il s'appelle le panfredon. Et lui aussi, il fait partie des guêpes solitaires. La femelle va paralyser des pucerons ou des petites chenilles, là, et puis les disposer dans un trou et pondre un œuf dessus. Et puis sa larve, elle va s'en nourrir, hein, puisque la chenille est paralysée. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils vont arriver à manger toute la chenille pendant que cette chenille va rester vivante. Ah. Ils font très attention à ne pas la tuer. Tant qu'elle est vivante, elle ne va pas se décomposer. Donc,
et oui, la nourriture
bonne à manger
est fraîche
pour eux. Voilà.
Mon Dieu.
Donc, et voilà, il faut savoir quand même qu'un seul panfredon comme ça, il peut prélever jusqu'à 1000 pucerons.
Donc, opportuniste, hein, il pond au-dessus d'un nid de pucerons. Hein,
Non, il va attraper des pucerons, les piquer, les paralyser et mettre ça dans son trou.
Ah.
Et ensuite, c'est dans ce trou qu'il va pondre son œuf. La larve s'y développera parce qu'il a refermé aussi le trou comme le font les abeilles.
Pareil, avec un peu de crachat et
donc,
de terre. Hop.
Pourquoi jusqu'à 1000? Parce qu'en fait, il va mettre une dizaine de pucerons. Ça va être pour un œuf et puis une dizaine de pucerons, et puis, etc. Et sans compter le fait que lui, il en mange aussi puisque c'est un prédateur.
Oui.
Non seulement il va s'en servir pour la production, mais aussi pour sa nourriture.
Alors ne chassez pas la guêpe panfredon parce qu'elle va pouvoir sauver vos rosier. Hein.
Voilà. Enfin, ben oui, et rosier entre autres. Hein,
Et la mouche, on n'en parle pas assez des mouches, Jackie. Celle qui nous enquiquine sur les pique-niques. Elle sert à quoi, la mouche? À rien?
Voilà. Alors, ben, de toute façon, les insectes, ils ont tous une utilité. Hein, Donc, ben, les mouches qui nous embêtent au pique-nique, il y a les mouches domestiques, hein, qui sont les mêmes que celles qu'on voit dans la maison. Il y a les mouches à viande, les mouches à crotte, hein, on va dire. Mais il y a aussi des mouches qui s'appellent les mouches tachinaires, par exemple. Alors là, c'est les larves de ces mouches parasitent de nombreux insectes, dont certaines chenilles qui sont vraiment spécifiques. Ils vont arriver à pondre sur des chenilles pour que leurs larves rentrent à l'intérieur de la chenille.
Ah oui, quand même.
C'est quand même des choses assez, assez étonnantes.
Ouais.
Alors, celles des arbres fruitiers, comme les tordeuses ou les hipponomeutes, par exemple, hein, qui sont des chenilles, les hipponomeutes, on en a parlé, c'est ces chenilles qui se développent en développant une toile un peu autour d'elles.
Ah.
Ça peut être aussi sur certaines chenilles des légumes, comme celle de la pyrite du chou, par exemple, ou la noctuelle. Mais même la chenille du maïs, la pyrale, peut justement être aussi infectée par ces mouches tachinaires.
C'est la même que la pyrale du buis?
Ah non, ce n'est pas la même. On a des spécificités, en fait. Hein, mais c'est une pyrale aussi.
C'est une pyrale.
Mais voilà, c'est pas la même que sur le maïs et sur le buis.
C'est la chenille qui bouffe nos buis en ce moment, qui monte du sud. Je vous en parlerai un jour.
Oui. Alors, elle parasite aussi, il faut le savoir, des larves de coléoptères, comme le hanneton, par exemple. Au jardin, ben, comment on va faire pour les attirer? Eh ben, je vais y mettre des fleurs qui vont les attirer, parce qu'en même temps, elles peuvent butiner aussi. Et il faut savoir qu'elles se nourrissent en même temps du nectar des fleurs.
Mmh.
Alors, il y a autre mouche, les sirfes. Alors, les sirfes, elles n'ont pas de chance, parce que, en fait, pour être tranquille par rapport aux prédateurs, elles ressemblent un petit peu à des guêpes ou à des abeilles.
Mmh.
Donc, elles ont une livrée comme ça, jaune et noire, des fois. Mais il faut savoir qu'elles ne piquent pas. Et elles sont bien utiles, parce que leurs larves, elles rampent sur les feuilles en quête de pucerons. Et elles consomment 400 à 700 pucerons lors de leur vie larvaire. Rendez compte, pour une chenille seulement, 400 à 700 pucerons.
Pas mal.
Pour les maintenir au jardin, ben, il faut avoir des plantes à fleurs, notamment au début du printemps et en automne. Et alors ben là, il y a une plante qui marche très très bien pour ça, c'est le lierre, hein, parce qu'il va fleurir à des moments où on n'aura pas d'autres fleurs. Mais vous voyez, encore une fois, quand on dit qu'il faut mélanger un petit peu les plantes au jardin, et ben, voilà, un gros avantage d'avoir des fleurs aussi pas loin de mes légumes, c'est que ça va attirer des insectes qui vont protéger mes légumes.
Et voilà, encore une fois. Est-ce que tu as d'autres exemples d'insectes qui paraîtraient comme ça, à première vue, indésirables à beaucoup de personnes et qui pourraient se révéler fort utiles pour la nature?
Eh bien oui, je vais vous en parler d'une, au moins la punaise terrestre,
oh là là là,
qu'on appelle aussi gendarme.
Ah oui.
Eh bien, hein, d'accord. Eh bien, elle, c'est une... Tout le monde ne le sait pas. Eh bien, c'est une prédatrice carnivore. Ah ouais, parce qu'on peut râler après et puis se dire « Oh là là, quelle bestiole !» Mais on ne sait même pas ce que ça mange.
Et
ben
oui.
Voilà, c'est une prédatrice carnivore qui va manger d'autres insectes. Elle dévore littéralement les pucerons, les cochenilles, les alerodes, les trips et beaucoup de jeunes chenilles. Vous voyez qu'en fait, on peut ne pas aimer cette bestiole-là alors qu'elle va nous aider.
Et oui.
Si je conserve des zones en friche pendant l'hiver, au jardin, eh ben, les œufs et les larves s'y abriteront.
Ouais.
Et donc, voilà, l'insecte pourra perdurer dans mon jardin.
Il faut faire des hôtels à insectes.
Des hôtels à insectes, des zones qu'on laisse aussi tranquilles, comme ça.
Oui.
Pas systématiquement rechercher un jardin ultra propre, parce que ça veut dire qu'il s'est aseptisé. Et donc, par définition, plus de bestioles, plus de choses.
C'est pas ça, la vie.
Alors, on va parler d'un autre insecte, un coléoptère qui fait beaucoup plus l'unanimité. Eh bien, c'est la coccinelle.
Oh oui, parce qu'elle est belle, la coccinelle.
Eh bien, voilà. Alors, les délits de faciès, voilà. on est en plein dedans.
Ah oui, carrément.
Alors, elle, mais surtout sa larve, eh bien, il faut savoir qu'ils se nourrissent de pucerons.
Oui.
Alors, au jardin, pour avoir des coccinelles, il faut laisser se développer quelques colonies de pucerons sur des espèces de plantes spécifiques, comme par exemple le forbe printanière ou le rosier. Trop souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah non, moi, j'ai pas de punaises de coccinelles dans mon jardin.
Oui. »
Et systématiquement, si je leur dis « Vous avez des pucerons ?» Ah ben non, ça je... Ben voilà. Si on supprime les pucerons, les coccinelles ne vont pas venir.
Et bien sûr, hein, si on leur enlève la nourriture, elles ne vont pas venir.
Voilà. Alors, on peut aussi leur fournir un abri pour l'hiver. Donc, tu parlais des hôtels à insectes. Mais le lierre aussi, hein, qui va garder ses feuilles, est un excellent abri pour tout un tas de petits coléoptères, de papillons, etc. Alors, il y a un autre insecte qui a un nom un petit peu bizarre, comme ça, la chrysope verte. C'est une espèce de petit papillon qui a des ailes plutôt en forme delta, comme ça, qui sont d'un vert transparent.
Ah,
et on peut les voir sur les carreaux des fenêtres.
Oui.
Hein, souvent, quand ils se sont fait piéger parce qu'il faisait un peu chaud, ils sont rentrés dans la maison et ensuite, ils veulent ressortir et on les voit sur les carreaux. Et bien là aussi, il faut savoir que c'est une dévoreuse de pucerons extraordinaire.
Mmh.
Et sa larve, ben, elle se gave aussi justement de pucerons d'aleurode et de larves de cochenille. Donc, c'est un petit insecte très, très intéressant. On l'appelle aussi la belle aux yeux d'or, parce que si vous la regardez de près,
oui,
eh ben, elle est vert clair comme ça, et ses yeux sont dorés, magnifiques.
C'est un peu comme une mini libellule, hein, c'est bien ça?
Oui,
ça
mais avec les ailes qui sont le long du corps, quoi, oui, mais
voilà,
des ailes transparentes comme ça, et on voit juste les nervures, en fait.
Voilà, hein, et très fin.
Très,
ouais,
très fin.
C'est un bel insecte,
voilà,
effectivement. Tu en as d'autres?
Oui,
pardi.
J'en ai beaucoup d'autres, même.
Plein.
Mais
on va
parler de quelques-uns. Le bourdon, par exemple.
Hein,
parce que là, le bourdon, c'est un pollinisateur, je dirais, assidu. On le voit au jardin quand il y est. Hein, par exemple, sur les groseilliers, les cassissiers, vous entendez bourdonner parce qu'il va aller sur chaque fleur. Il est très opiniâtre, donc c'est un excellent auxiliaire comme ça. Hein. Il absorbe, lui, le nectar des plantes avec sa trompe. Des fois, en perforant même le pétale s'il le faut. Hein, quand le nectar est trop compliqué à aller chercher, on peut le voir perforer comme ça la fleur.
Il est outillé.
Alors, il y a la jardinière aussi, hein, qu'on appelle aussi le scarabée doré. Alors, je serais presque tenté de dire qu'on appelait, parce que moi, quand j'étais môme, on en voyait énormément.
Ouais.
Et là aussi, comme c'est un peu des nettoyeurs, eh ben, ça veut dire qu'ils ont souffert de la pollution, on en voit moins.
Mmh.
Il faut savoir que cette jardinière, elle consomme des limaces, des escargots, des larves d'insectes.
C'est des limaces, des escargots entiers?
Oui. Alors,
c'est incroyable.
Oui, parce qu'en fait, eux... Comme c'est petit, ils vont rentrer à l'intérieur de la coquille.
Ah, yeah,
ils vont commencer par l'ouverture et puis ils vont aller jusqu'aux intestins de l'escargot. Ils vont aller manger ça. Mais comme peut le faire aussi la larve du ver luisant, on en parlera sans doute un petit peu plus tard. Ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement le genre d'insecte qui va réguler les populations d'indésirables. Parce que je vous promeux les insectes depuis le début de l'émission.
Mmh.
Et puis là, je vous dis, bah oui, ça mange des larves d'insectes. Oui, parce qu'il y a des insectes qui sont... Même des insectes qui peuvent nous rendre service, quand ils prolifèrent trop, ils deviennent des indésirables.
Mmh.
Et en fait, la nature a fait toujours bien les choses. Elle arrive à équilibrer.
Ouais.
Alors bien sûr, si vous utilisez des produits chimiques, ces prédateurs seront les premiers impactés, directement ou indirectement.
Hein. Et puis là, vous coupez complètement...
Complètement cette chaîne, en fait.
Voilà.
Hein, ce cercle vertueux, on pourrait
c'est
dire.
C'est ça.
Je vous parlais du ver luisant. Alors, lui, il consomme des limaces, des escargots.
Non.
Et si...
Mais c'est tout petit, le ver luisant.
Eh bien, oui, c'est petit, mais ça n'a pas besoin d'être gros. L'escargot, il ne sait pas se défendre.
Ouais,
sa seule défense, ça va être de faire de la bave, qui ne gêne pas l'insecte. Donc, il va le manger vivant. Il va commencer à l'attaquer et le manger comme ça, puisqu'ils se retrouvent en même temps ensemble sous des pierres. Et c'est comme ça que ça va se passer. Que je trouve qu'il devient rare. Pour l'aider à recoloniser un petit peu la nature, il faut lui mettre à disposition des abris. Alors, des feuilles mortes, des pierres, du bois pourri. Voilà. Encore une fois, un jardin qui ne va pas être hyper propre, eh ben, il va pouvoir accueillir justement un maximum de ces auxiliaires.
Ouais, c'est la vie.
Voilà.
Dans les coléoptères, je pense que tu en as d'autres sous le chapeau, Jackie.
Alors, je vais soulever mon chapeau et qu'est-ce qu'on va y trouver ? La cétoine dorée.
Oh !
Alors ça, je vous en ai déjà parlé quand on avait parlé du compost. Hein. Mm. C'est un gros insecte vert brillant qui fait beaucoup de bruit quand il est en vol.
Ouais.
Il se nourrit de pollen à l'âge adulte et il aide ainsi à la reproduction des plantes qu'il fréquente. Hein, ça va être pollinisateur, sa larve. Alors ça, sa larve, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est un gros ver blanc qu'il ne faut pas confondre avec la larve de hanneton. Parce que cette larve, elle est au compost. Donc, il n'y aura pas, si vous voyez un gros ver blanc au compost, c'est une larve de cétoine dorée. Ça ne peut pas être une larve de hanneton.
Donc, c'est très important pour le jardin. Donc, vous conservez votre gros ver blanc dans votre compost.
Parce que c'est un décomposeur de matière organique végétale.
Voilà.
Il est donc fort utile.
Bien.
Quand je distribue mon compost au jardin, au printemps, là, eh ben, je prélève justement les larves qui s'y trouvent et je les remets tout de suite dans mon nouveau compost
pour qu'ils puissent travailler.
Alors, parmi les insectes utiles, hein, pour essayer de finir un petit peu sur le chapitre des insectes, même s'il y en aurait beaucoup d'autres à vous parler, hein, j'ai pas parlé de la perce-oreille, on en avait parlé déjà, voilà, tout ça, c'est... et puis, alors, il faut savoir que des insectes, il en est de minuscules, comme les colamboles, qui se nourrissent de tout petits débris végétaux et de moisissures. Ils sont très utiles pour faire le compost. Mais quand je vous dis minuscule, ça veut dire que c'est à peine un demi-millimètre. Hein. Voilà. Donc, vous n'allez même peut-être pas les voir à l'œil, comme ça. Mais il n'empêche qu'eux, ils travaillent et ils font le compost.
Bah bien, Jackie, je te sens quand même intarissable sur le sujet. Tu n'as énuméré que certains insectes. Il faudra continuer le sujet sur une prochaine émission, il me semble.
Bah oui, effectivement, hein, le sujet est copieux. Les observations sont intéressantes à faire au jardin pour se rendre compte de l'importance de ces auxiliaires. Les auditeurs qui seraient intéressés pour avoir entre les mains le fascicule que j'avais réalisé qui s'appelle « Les auxiliaires du jardinier », eh ben, ils peuvent téléphoner ou écrire à 48FM pour donner une adresse mail. Et puis, après, je leur renvoie un document en PDF, en couleur. Il y aura juste à le tirer sur votre imprimante. Et nous donnerons les coordonnées en fin d'émission. Mais j'ai une trop forte tendance à mobiliser la parole, je crois. Alors, je crois que c'est à toi de nous parler d'un sujet qui peut sembler contradictoire au premier abord, puisque tu nous parles, toi, d'insectes nuisibles, les chenilles processionnaires du pin.
Et oui, elles envahissent nos forêts depuis quelques années et il semblerait que la lutte contre cette prolifération soit devenue très compliquée. En effet, hein, Jackie ?
Eh oui, on en voit de plus en plus, en effet. Alors, on se disait l'année dernière, il y avait une telle abondance que cette année, on devrait être tranquille. On ne l'est pas complètement. Hein. Moi, dans ma région autour de Marvejols, là, il y en a encore beaucoup.
Et non, c'est pas aussi simple parce qu'on aurait dû être sur une fin de cycle, effectivement, l'an dernier ou l'année précédente, j'ai un petit doute. Mais il se trouve que le cycle de la chenille processionnaire est assez perturbé. Nous allons y revenir. Mais déjà, voilà, pour vous dire que les informations que je vais vous donner sont issues d'un organisme national avec des représentations locales. Il s'agit de la Frodon Occitanie. Donc, c'est un organisme qui est dédié au sanitaire du végétal, qui agit dans l'intérêt général en zone rurale comme urbaine et qui a pour objet essentiel la protection de l'état sanitaire des végétaux et du patrimoine naturel dans l'intérêt du public. Donc la Frodon agit contre les organismes nuisibles, les espèces exotiques envahissantes et les dangers sanitaires qui portent atteinte à la santé des végétaux ou à la santé publique. Voilà, il faut savoir que la Frodon interpelle régulièrement les acteurs locaux sur les sujets dits sensibles afin de leur fournir de l'information et des moyens de lutte appropriés. Vous pourrez trouver le site internet de la Frodon très facilement sur internet, bien sûr. Et voilà, vous avez plein d'infos sur tout ce qui nous préoccupe en ce moment.
Donc là, c'est souvent qu'on travaille avec la Fredon. Moi, ça m'arrive de travailler avec le Réel 48 comme ça, où on fait des interventions, où en fait c'est une source documentaire aussi très, très intéressante avec des gens qui travaillent sérieusement là-dessus.
Ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fredon Occitanie. Hein. Voilà, donc revenons à nos chenilles. Donc là, la chenille processionnaire du pin, donc il s'agit d'un ravageur. Je vous épargne son nom en latin, sauf si tu le fais, Jackie.
Eh bien oui.
Allez.
Tometopoea. alors là, par contre, Pithiocampa.
Eh oui.
Alors, famille des lépidoptères, ça veut dire simplement papillon, hein, parce qu'on parle de la processionnaire du pin, mais c'est son état larvaire, la chenille.
Oui.
Hein. Donc, il faut savoir que c'est un petit papillon de nuit.
Voilà. Donc, la plante hôte, la plante préférée de la chenille processionnaire, bah, c'est le pin et le cèdre. Ses impacts, l'impact de la chenille, dépérissement et éventuellement mort des arbres atteints, propagation rapide aux arbres proches, et impact sur la santé humaine et animale surtout.
Oui, il faut savoir que ça mange en priorité les toutes jeunes aiguilles de pin, hein, quand ça commence à se développer au printemps. Et donc, ça peut complètement supprimer les aiguilles sur un pin. Alors, si ça se passe une année, le pin, il va pouvoir l'année suivante refaire ses aiguilles. Mais deux ans de suite, souvent, c'est rédhibitoire.
Oui, voilà. Ou si on a une sécheresse par-dessus, ça peut le sécher l'arbre, effectivement. Alors, grosso modo, la chenille processionnaire, vous la connaissez ici en Lozère. On voit ses nids caractéristiques dans les pins, hein, des boules de, comment on pourrait dire, Jacques,
de soie. C'est pas des nids en fait. Hein.
C'est pas des nids.
Voilà,
c'est
plus facile de dire nid ou cocon.
Oui.
Non, en fait, c'est que elle tisse derrière elle des fils de soie, et comme elles se rassemblent la nuit au moment où il fait froid, les fils de soie vont leur permettre de maintenir une certaine chaleur au milieu du cocon. Hein, et ça se développe d'autant plus au début de l'hiver pour justement les maintenir comme ça. C'est une espèce de cocon, mais d'habitude, un cocon, c'est individuel, alors que là, c'est pour toute la
colonie.
Famille, la colonie. Voilà.
D'accord, donc on la connaît, hein, donc on repère ses, comment on dit, Jackie, on dit pas des nids, on dit quoi alors?
Ces amas de soie.
Ces amas de soie dans lesquels les chenilles prospèrent.
Non, dans lesquels elles vont se reposer, parce que elles se reposent là et elles vont sortir au bon moment de la journée, quand il va faire doux, pour aller manger justement les jeunes aiguilles du pin.
Ouais, voilà.
Mais
d'où cette enveloppe de soie nous conduit à comprendre pourquoi, même avec des hivers très froids, la chenille processionnaire du pin résiste.
Oui.
Parce que le soie, c'est un excellent
isolant.
Merci, Jackie. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, c'est un redoutable ravageur. Et comme tu l'as dit, Jackie, elle se nourrit des aiguilles des résineux sur les peuplements de pins et de cèdres. Voilà. Et au stade adulte, effectivement, ce lépidoptère, donc ce papillon, devient un papillon de nuit. Et cette chenille, elle est surtout, c'est ce qui nous préoccupe, on va dire, aujourd'hui, elle va être surtout responsable de nombreux problèmes de santé publique. J'ai entendu parler d'une randonnée gourmande il n'y a pas très longtemps qui s'est finie aux urgences pour quelques personnes. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que depuis plusieurs années, les populations présentes sur un territoire donné plusieurs cycles décalés, en fait, les uns par rapport aux autres. De ce fait, les stades s'échelonnent non plus sur un mois et demi, mais sur deux à trois mois, voire plus. Ce qui se traduit par une phase de migration qui débute de début décembre pour se poursuivre jusqu'à la mi-mai. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la perturbation du cycle de vie des chenilles processionnaires perturbe aussi la lutte, évidemment. Puisque dans les moyens de lutte, on a par exemple le sac.
Oui,
qu'on accroche à l'arbre pour quand la chenille descend. Parce que quand elle sort de son quand elle sort de là, qu'elle descend le long de l'arbre, en fait, normalement, c'était à une période donnée. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut se produire n'importe quand, selon la colonie de chenilles, en fait, à laquelle on a affaire.
Et alors, on peut dire aussi que c'est pas pour rien qu'elle descend. Hein. Quand elle est arrivée à la fin de son stade larvaire de chenille, en fait, elle sait, elle, qu'elle va coconner dans le sol. Et donc, il va falloir qu'elle redescende de l'arbre pour aller coconner, donc à la suite d'une procession, hein, d'où elle tire son nom. Donc, voilà, il y a un moyen de la piéger quand elle descend comme ça, puisque toutes les chenilles d'un même arbre doivent descendre le long de ce tronc.
En même temps.
Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Que c'est quand même un ravageur qui présente un problème de santé publique important, hein, c'est ce que je vous disais, puisque le pouvoir urticant des chenilles, en fait, il provient de poils microscopiques qui sont contenus dans des poches sur le dos de la chenille processionnaire et qu'elle va pouvoir éjecter dans l'air à chaque fois qu'elle va se sentir stressée. Et en fait, ces poils microscopiques, ils sont hyper irritants et ils peuvent entraîner des problèmes cliniques chez les humains, irritation, réaction dermique, oculaire, respiratoire, et aussi affecter sérieusement les animaux domestiques et le bétail, notamment les chiens qui ont la manie malheureusement de renifler un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Vaut mieux pas qu'ils reniflent un tas de chenilles processionnaires. Quoi qu'il en soit, si vous en croisez dans la forêt en vous promenant, le mieux c'est de s'éloigner rapidement quand même, hein, parce que ça peut aller super loin ces poils urticants.
Oui, laissez les faire. On voit trop de personnes qui essayent de les détruire. Alors oui. Dites-vous bien que de toute façon, il y en a des millions et des millions.
Voilà.
Donc, je ne sais pas si on devrait parler en dizaines de millions ou en centaines de millions, parce que c'est, sur notre département, c'est quand même assez énorme. Mm. Mais c'est là où il est dérisoire, dangereux et dérisoire, d'essayer d'en tuer une, même 50, 60 qu'on va voir en procession comme ça. Vraiment, laissez-les tranquilles. Vous ne ferez rien pour la lutte contre ces bestioles en les écrasant.
Non.
Voilà.
Et puis de toute façon, quand elles sont en procession, nos fameuses chenilles, c'est là qu'elles sont les plus aptes à être stressées, on va dire.
Oui, c'est ça.
Et du coup, dès qu'elles sentent la présence d'un être humain, elles vont commencer à libérer leurs poils urticants. Donc si vous vous amusez à aller sauter dessus à pieds joints, moi je vous souhaite bonne chance quand même. C'est pas une bonne idée. Et puis comme tu dis, Jackie, elles ont tellement pullulé qu'aujourd'hui, la conclusion de l'Afredon, c'est que l'éradication de ce ravageur est tout simplement impossible. Alors, il y a quand même des mesures sanitaires à prendre, notamment si vous avez un pin dans votre jardin. Ou, voilà, quand il y a des habitations à proximité ou quand il y a du bétail. Ou, voilà, c'est là qu'il faut vraiment s'en préoccuper. On n'éradiquera pas tout. On ne va pas aller au cœur de la forêt domaniale de Mende pour bombarder tous les nids de chenilles processionnaires. Ce serait de toute façon impossible à faire. Par contre, quand on a quand même quelques moyens de lutte à notre disposition qui devraient permettre, si tout le monde s'y met un petit peu, de diminuer cette quantité de chenilles processionnaires. N'est-ce pas, Jackie ?
Eh oui.
Je l'ai perdu.
Non, mais je suivais tout à fait. Parce que je me disais justement, le premier moyen de lutte qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, pourquoi est-ce qu'il y en a autant maintenant ? C'est quand même que à partir des années 80, on a fait beaucoup de repeuplement en pin noir d'Autriche.
Et, oui.
Et il s'avère que le pin noir d'Autriche, c'est vraiment la plante hôte par excellence de cette chenille. Et voilà pourquoi maintenant on est coincé. Alors après, elle peut aller sur d'autres pins et puis des cèdres, comme tu disais. Mais voilà, c'est venu de là. Il est aussi difficile de supprimer tous les pins que de supprimer toutes les chenilles, comme je disais tout à l'heure.
Oui.
Donc il y a des mesures. Et bien justement, au fur et à mesure, il va falloir aussi essayer de planter moins de pins, etc. Mais je avancer dans ce domaine.
Parce que tous ces pins noirs, leur plantation avait une raison d'être à l'époque. Hein. Il fallait repeupler à un moment donné pour d'autres problèmes environnementaux. Donc, toujours bénéfique, l'action de l'homme sur la nature. Il n'y a pas à tortiller.
Ouais, ouais.
Voilà, on a toujours des conséquences qu'on n'imagine pas nécessairement. Bref, on va essayer de faire un petit peu le tour des mesures préventives. Alors, justement, par rapport à ces plantations, il paraît important aujourd'hui d'améliorer la biodiversité des peuplements. Voilà, des peuplements en forêt. Notamment en y introduisant des feuillus.
Et
voilà.
Oui. Voilà. Et après, on luttera contre la processionnaire du chêne.
Voilà, parce qu'elle existe aussi. Bah, alors dans les feuillus, il n'y a pas que le chêne. Jackie fait un effort, on peut mettre des bouleaux. Par exemple, on fera de l'eau de bouleau, de la sève de bouleau. Voilà, c'est parfait.
Et ça nous fera des nattes en forme en plus. Alors.
Voilà, exactement. Donc évidemment, on évite de planter du pin, hein, surtout dans les secteurs favorables aux ravageurs. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est, en termes d'implantation, c'est implanter des nichoirs à mésanges. Parce qu'alors, la mésange, c'est un prédateur exceptionnel de la chenille processionnaire. Tu dois connaître ça, Jackie, en tant que bon jardinier.
Oui.
Raconte.
Oui, bien sûr. Alors, les mésanges, hein, même les petites mésanges bleues, mésanges charbonnières, elles vont prélever, hein, on dit ça comme ça, c'est plus joli quand même que de dévorer. Mmh. Elles vont prélever des chenilles dans leur stade 2 et 3 qu'on appelle, c'est-à-dire les premiers stades larvaires, comme ça, hein, quand elles ne sont pas très grosses.
Ouais.
Et surtout pour nourrir leur nichée, parce que si on met des nichoirs, il faut savoir que ces petites mésanges font au moins une dizaine d'œufs par nichée, des fois deux ou trois nichées dans l'année. Donc, on imagine, d'un seul coup, s'il y a 30 petits à nourrir pour un couple, je ne sais pas, moi, 10 chenilles par jour, ça en fait 300. Le petit va rester 3 semaines au nid. Rapidement, ça fait quelque chose d'assez énorme. Donc, mettons des nichoirs, effectivement.
Des nichoirs à mésanges. Attention, chaque nichoir va être spécifique à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Vous trouvez un tutoriel pour fabriquer vous-même vos nichoirs à mésanges sur Internet. Bien sûr, vous pouvez aussi les commander directement auprès d'organismes spécialisés comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, ce genre de choses. Voilà, si vous n'avez pas le courage de les fabriquer. En tout cas, installez des nichoirs à mésanges un petit peu partout. C'est intéressant. D'ailleurs, le conseil départemental de la Lozère a fourni aux collectivités, aux communes qui le souhaitaient, des nichoirs à mésanges, justement, absolument, dans l'objectif de lutter contre cette chenille processionnaire. Donc, c'est une initiative effectivement super intéressante. Voilà.
On laissait beaucoup plus facilement des arbres morts dans la nature. Donc, les nichoirs naturels, ils s'en trouvaient beaucoup. Mmh. Maintenant, c'est de plus en plus difficile. Et surtout, plus difficile pour les petits oiseaux. Les petits oiseaux ont besoin d'avoir un trou d'envol, qu'on appelle, hein, donc le trou par lequel ils vont passer, qui soit suffisamment petit pour ne... Parce que, tout simplement, on peut imaginer que des oiseaux plus gros vont les empêcher de nicher à cet endroit-là. Donc, c'est surtout pour les petits qu'il faut privilégier, et donc d'avoir des nichoirs avec des petits trous d'envol.
Ouais, la mésange nonnette, par exemple, qui est toute petite, voilà, toute mignonne, il lui faut un tout petit nichoir avec un tout petit trou. Voilà. Alors, dans les méthodes de lutte contre la chenille processionnaire, nous avons également le piégeage. Hein. Ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il est possible d'utiliser des pièges pour capturer les chenilles lorsqu'elles descendent des arbres. Mais là, encore faut-il savoir à quelle période on est. C'est là que ça devient très compliqué par rapport à leur cycle de vie complètement perturbé. Voilà. On a aussi possibilité d'utiliser une phéromone de synthèse qui va permettre de capturer les papillons mâles.
Oui, alors là, il faut savoir comment un papillon femelle va attirer un mâle papillon. Ben, c'est simplement en émettant des phéromones. Ouais. Ces phéromones donc, qui vont se disperser dans l'air. Il faut savoir qu'un papillon mâle, à plusieurs kilomètres, peut sentir les phéromones femelles et donc venir pour essayer de féconder la femelle. Donc, on peut le faire de façon artificielle, hein, avec de la phéromone de synthèse. Mm-hmm. Les mâles arrivent croyant tomber sur des femelles et ensuite, ils vont être piégés ou par de la glu ou par un piégeage quelconque. Si on arrivait comme ça à supprimer tous les mâles, eh ben, par définition, il n'y aurait pas de repro. Et donc, ce serait aussi une bonne méthode.
Après, il nous reste comme autre moyen de lutte, ce qu'on va appeler la lutte mécanique, l'échenillage. En fait, là, il s'agit de couper et de brûler les branches, porteuses de nids. Donc là, il s'agit de couper l'extrémité de la branche sur laquelle va se situer le... l'amas de soie dans lequel se trouvent les vers, les chenilles, pardon, et ensuite le brûler. Sauf que le brûler, ça va prendre un certain temps. Je sais que ici à la ville de Mende, les services espaces verts s'attaquent régulièrement aux nids de chenilles processionnaires équipés de lance-flammes et bien entendu de protection, parce que si vous avez envie de faire un truc comme ça, il faut absolument vous protéger. Et voilà, parce que ils disent qu'il faut quand même tenir un certain temps le lance se flamme sur cet igloo de soie dans lequel sont renfermées les chenilles processionnaires pour réussir à en venir à bout. C'est quand même un truc très costaud.
Oui, il ne faut pas. Pour les amateurs, moi, je préconiserais on coupe la branche porteuse. Et puis, en fait, on peut aussi très bien mettre tout ça dans un sac plastique bien fermé, l'oublier pendant un moment et les chenilles vont mourir là-dedans.
Elles vont étouffer.
Moi, je préfère que de brûler et de risquer. Parce qu'il suffit qu'il y ait du vent, il suffit... Déjà, avec les éco-buages, moi, je trouve que mettre en danger après la vie des pompiers, parce qu'on a mis le feu quelque part, jouons pas avec le feu. On peut très bien mettre ça dans des gros sacs et puis les fermer hermétiquement. Les chenilles, elles vont mourir à l'intérieur.
Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça. C'est plutôt les professionnels, effectivement, qui utilisent ce genre de méthode. Mais à la maison, suivez le conseil de Jackie, ça paraît plus prudent. Voilà, alors juste pour finir, un petit point réglementation hein, en France.
Alors juste avant, oui, si tu permets, dans les prédateurs, il y en a un autre aussi qui est très important, et d'ailleurs le conseil départemental l'a bien compris aussi, c'est les chauves-souris.
Ah oui, bien sûr, pardon.
Les chauves-souris, parce qu'en fait, à l'état adulte, les papillons de nuit, comme ça, sont dévorés par les chauves-souris. Hein. Ça, c'est extraordinaire, le nombre de papillons qui peut être mangé dans une nuit par une colonie de chauves-souris. Mmh. Donc, là aussi, comme on le disait pour les oiseaux, les chauves-souris, elles ont souvent du mal à trouver des endroits sympas pour pouvoir s'accumuler. Donc, il existe aussi, comme ça, des petits nichoirs à chauves-souris, donc délivrés aussi par le conseil départemental, ou bien qu'on peut faire très facilement. Alors là, c'est vraiment un nichoir très facile. Moi, je vous conseille même de faire ça avec les enfants pour les initier un petit peu à tout ça. Mm-hmm. Deux planches de bois, et puis vraiment, on trouve ça n'importe où sur Internet.
La chauve-souris n'est pas très difficile en termes de nichoir.
Non.
Et puis, on a beaucoup de chauves-souris, plein d'espèces différentes de chauves-souris en Lozère. Hein.
J'ai entendu une bonne histoire sur Inter aujourd'hui.
Ah.
Sais-tu comment on appelle une chauve-souris qui a une perruque?
Non.
Une souris.
Merci, Jackie, pour ce point humour. Voilà, c'était pour attaquer le côté réglementation avec le sourire. Ce n'est pas toujours le côté le plus rigolo. Voilà. Alors, en France, la lutte contre la chenille processionnaire n'est pas obligatoire. Cet organisme nuisible n'est pas réglementé. Donc, il est à la charge des particuliers et des collectivités de veiller à l'éradication de ce ravageur lorsqu'il est considéré comme nuisible pour les arbres attaqués ou dès lors qu'il présente un danger pour la santé humaine ou animale.
Bon, alors, pour la prochaine émission, moi, je propose que nous continuions dans la pratique avec affaire au jardin, comme d'habitude, la suite des auxiliaires jardiniers et puis sans doute un sujet que tu nous auras concocté avec le talent qui t'anime.
Ah, merci Jackie, je vais essayer.
Cultivons notre jardin.
Alors maintenant, voici venu le temps du calendrier des activités de jardinage. On y va. Alors, le samedi 27 avril à Marvejols, organisé par Jardin Nature 48, la visite du jardin au naturel de Jean-Pierre Fournier avec de nombreuses explications sur la pratique. Ça, je vous le conseille fortement. Le mercredi 8 mai à Chirac, dans le cadre de la foire aux plantes, un troc de plantes et de graines est organisé par Jardin Nature 48.
Le samedi 11 mai à Ispagnac, Sophie Lemonnier animera un atelier sur les plantes sauvages comestibles avec l'organisation de Jardin Nature 48.
D'accord. Et petit rappel permis de végétaliser, vous avez jusqu'au 3 mai pour déposer vos candidatures. Et le samedi 11 mai à 14h, une réunion d'information publique sera organisée par la ville de Mende dans le cadre du permis de végétaliser. Donc nous reprendrons les projets demandés par les habitants et nous verrons tous ensemble les possibilités, comment s'organiser, etc. Donc si vous n'avez pas vous-même déposé de candidature, mais que le sujet vous intéresse ou que vous souhaiteriez vous greffer à un projet, ben venez nous retrouver, salle des associations, place du Foirail, le 11 mai à 14h.
Le jeudi 16 mai, à la ressourcerie, toujours sur le Causse d'Auge, un atelier vélo et un atelier couture seront organisés par la récup.
Ah bien, vous pouvez aller apprendre à réparer votre vélo ou un peu à coudre, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a ? On a le samedi 18 mai à Mende. Nous ferons l'installation des jardins des incroyables comestibles, toujours dans le cadre du permis de végétaliser.
Alors là, c'est dommage, mais le 18 mai, il y a aussi à Rousse.
Eh oui,
dans les
tu
Cévennes,
m'abandonnes, Jackie.
Que se déroulera le traditionnel troc plantes et marché artisanal à partir de 10h.
Très bien.
Voilà le point fait sur les activités. Sachez que cette émission Cultivons notre jardin est diffusée régulièrement le vendredi et le samedi à 11h et à 17h10.
Cultivons notre jardin.
Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Vous pouvez réagir et laisser vos messages et vos questions par courriel à redac@48fm.org ou sur la page Facebook de la radio. Je vous rappelle au passage que Jackie vous a proposé de vous envoyer un petit fascicule en PDF si vous en faites la demande sur les bestioles du jardin. Donc n'hésitez pas à le demander, nous vous le renverrons par mail. Voilà, pour réécouter nos émissions, sachez qu'elles sont toutes disponibles dans la rubrique du site internet de 48FM sur 48FM.org. Voilà, et nous vous laissons en musique, puisque nous avons parlé de la chenille processionnaire avec la bande à Basile. Allez, à bientôt, Jackie.
À bientôt, et j'espère que cet air ne vous restera pas dans la tête aussi longtemps.
J'espère bien que si. Au revoir.
C'est la chenille qui se prépare. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, crie la chenille et le bon Dieu.
Si tu crois que je t'ai pas vu faire ta petite ingénue avec Pierrot dans le tunnel, allez, sois pas jalouse, c'est un copain, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil.
Hey, vous le les pipelettes, lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana.
On va être en retard, voilà le chef.
De roucouler
à la prochaine station, restez dans le wagon et n'essayez pas d'en profiter.
Posez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains.
Pour pas que la chenille déraille, tout ira bien et si tu veux.